1, 2, voilà, ça y est. Alors, première annonce, j'ai besoin de savoir combien nous sommes pour le bol de riz ce midi. Donc vers midi 25. Alors, il faut lever les mains qu'on sache. Hein. Je compte pour qu'on sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Nous sommes 30. Voilà. Oui, 30, 32, mais vous ne mangez pas beaucoup, vous, 31,5 alors. Bien, oui, vous aussi, plus 2 qui vont venir, ok, 33,5. Voilà, demain il y aura une petite quête, voilà, je vous préviens, tout ça, vous y préparez psychologiquement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si on veut se confesser, les prêtres vont se tenir aussi, donc soyons très libres. Et puis, c'est tout.
Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce matin. Et pendant ces quelques jours, nous allons donc parcourir quelques étapes avec Jésus lui-même, donc en reprenant les pages d'évangile qui sont importantes, dont l'Église fait mémoire en ce jour. Alors à vous, avant de vous parler de ce que je voudrais vous dire ce matin, je voudrais faire un petit préambule. Hier, j'ai fait un petit préambule aussi sur la place de l'Évangile dans tout le tome. Et j'expliquais que la place de l'Évangile, en tout cas dans les célébrations du Tridium, était tout à fait considérable. Donc je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais faire un autre préambule ce matin, un petit peu particulier, à propos de ce dont j'ai parlé hier dans l'homélie, si certains étaient présents, à savoir l'heure de Jésus. Je vous ai dit hier dans l'homélie que Jésus n'a vécu que pour une seule chose, à savoir pour une seule heure, et qui était l'heure de passer de ce monde à son Père. Et que cette heure-là était présente dans le cœur de Jésus dès le début de sa vie publique, ainsi qu'il le dit aux noces de Cana, au chapitre 2 de l'Évangile de Jean, puisqu'il dit à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue ». Ça veut dire qu'il a vraiment dans le cœur et dans la tête cette orientation ultime de sa vie, l'heure pour lui, de passer de ce monde à son Père, et c'est précisément cette heure dont l'Église fait mémoire. Je vous ai dit que cette heure aussi, c'était une heure qui était comme éternelle, puisque depuis 2000 ans, l'Église en vit de cette heure, et qu'elle en vit particulièrement dans la célébration des sacrements, puisqu'à chaque fois que nous célébrons un sacrement, que ce soit par exemple le sacrement de la réconciliation, ou que ce soit les autres sacrements, l'Eucharistie, pour ceux que nous avons l'habitude de pratiquer le plus souvent, eh bien, nous vivons à nouveau cette heure que Jésus n'a pas voulu garder pour lui-même, mais qu'il nous donne de vivre. Alors, je voudrais revenir avec vous quelques instants là-dessus, parce que ça a aussi une importance pour notre tridium pascal. D'abord, cette heure a été comme éternisée. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Comment se fait-il qu'une heure, alors l'heure concrètement dans la vie de Jésus, a duré plus qu'une heure? L'heure de passer de ce monde à son Père, ça a évidemment duré plus qu'une heure. Ça a duré à peu près 2 jours et demi, hein, pour Jésus. Mais comment se fait-il que ces 2 jours et demi aient été comme éternisés? Là, c'est une vraie question. Eh bien, la réponse vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui prend ce qui appartient à Jésus pour nous le communiquer, pour nous le communiquer. Ça, c'est Jésus qui le dit lui-même dans l'Évangile de Jean, à propos de l'Esprit-Saint. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Donc, l'Esprit-Saint, qui est Dieu, a la possibilité de prendre ce que Jésus a vécu pendant un certain temps de sa vie et de nous le donner comme à revivre, de nous le communiquer. Ça, c'est la grâce du Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous vivons à chaque messe. Vous savez, dans l'Eucharistie, quand le prêtre dit, reprend les paroles de Jésus et dit « Vous ferez cela en mémoire de moi », vous le savez, Ce qui advient à ce moment-là sur l'autel, c'est la consécration du pain et du vin. Ça devient, selon la foi, le corps et le sang de Jésus. Voyez, et c'est cette heure de la scène qui nous est comme rendue présente grâce à la puissance de l'Esprit. Alors c'est quelque chose, c'est une affirmation de foi. Je ne pourrais pas vous démontrer scientifiquement ce que je dis. D'accord ? Mais il faut chausser les lunettes de la foi pour rentrer dans ce mystère. Tout au long de sa vie, l'Église a eu plusieurs indices très clairs qui montrent que cette foi-là est vraie, même si on a du mal, pour nos mentalités scientifiques, à pouvoir y rentrer. Vous connaissez les miracles eucharistiques ? Vous savez ce que c'est ? Il y a eu plusieurs miracles eucharistiques au cours de la vie de l'Église. Notamment, je vous raconte l'un d'entre eux, à titre d'illustration. Au 7e siècle en Italie, un prêtre qui n'avait plus la foi consacre le pain et le vin, et puis, comme il n'avait pas la foi, laisse sur l'autel l'hostie. Et il rentre chez lui. Le lendemain, quand il revient sur la patène, ce n'était plus une hostie, c'était un morceau de chair humaine. Eh bien, ce morceau-là a été conservé, et depuis le 7e siècle, alors je ne sais plus comment s'appelle le lieu en Italie, c'est connu, vous trouverez ça sur Internet si vous voulez chercher, il y a des pèlerinages qui sont faits pour vénérer ce morceau, ce fragment, vous voyez, d'un corps humain. En 1971 et 1973, deux études scientifiques ont été faites sur ce morceau de corps humain. Et le résultat de la science est celui-ci, c'est un fragment de myocarde humain, donc le myocarde c'est une partie du cœur, fragment du myocarde humain prélevé sur un homme d'une trentaine d'années d'origine sémite et de groupe sanguin donneur universel. Prélevé le jour même. D'accord ? Ça fait 7 siècles que ce morceau, c'est ce fragment de chair humaine, de corps humain est là. La science dit que ça a été prélevé le jour même. D'accord ? Les résultats de cette enquête sont présents aussi sur Internet, il suffit d'aller chercher. Miracle eucharistique, 7e siècle en Italie. Vous trouverez les références de ce que je vous avance. À tel point que ça fait l'objet en fait d'une communication à l'OMS et je crois même d'une communication à la tribune de l'ONU dans ces années-là. Voilà, donc c'est quelque chose qui est tout à fait public. Il y a d'autres types de miracles eucharistiques de ce genre-là. Ce n'est pas le seul, c'est l'un des plus flagrants, des plus manifestes qui existent, mais ce n'est pas le seul. Pourquoi est-ce que Dieu, en fait, nous titille notre curiosité. C'est vrai que quand on écoute, quand on entend un truc comme ça, on est un peu étonné. Eh bien, pour nous dire que ce que nous célébrons à la messe, ça n'est pas du chiqué, que c'est vraiment Jésus qui donne son corps et son sang. Alors, heureusement, Jésus ne réalise pas tous les jours la transformation visible du pain en sa chair et du vin en son sang, parce que sinon nous serions très embarrassés. Mais c'est vraiment le corps et le sang du Seigneur auquel nous communions, ce qui est tout à fait conforme à la foi. Il suffit de reprendre les épîtres de Paul aux Corinthiens que nous avons entendus hier. D'autres passages disent « Nous communions tous au même corps du Christ et nous avons part tous à la même coupe de son sang. » Voyez, cette heure de Jésus, par la puissance de l'Esprit, a été comme éternisée. Et nous pouvons en vivre à chaque Eucharistie. Et c'est pour ça que Jésus, prévoyant ce qui allait se passer, le soir de la dernière scène, dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Les Juifs avaient eux-mêmes cette conscience qu'une telle heure dans l'Ancien Testament pourrait être éternisée. Il ne s'agit pas de la dernière scène de Jésus, mais il s'agit de la Pâque juive, que vous trouvez au livre de l'Exode, les chapitres 12 et 13. Eh bien, si on lit bien le livre de l'Exode, chapitres 12 et 13, vous connaissez cette histoire, le peuple est encore en Égypte, Moïse reçoit de la part de Dieu les indications pour faire célébrer la Pâque avec l'agneau pascal, les pains sans levain. Ça va, vous voyez bien le passage. Hein ? Et juste après ce moment-là, le peuple sortira d'Égypte. Quand on lit ce passage-là, on voit et on repère très bien dans la lettre même du texte que les Juifs ont conscience que cette libération que célèbre la Pâque doit être répétée, divinement répétée à chaque génération. Pourquoi ? Parce que dans ces prescriptions que Moïse transmet au peuple, il y a un petit rituel de catéchèse du père de famille à l'égard de son fils. Voilà, et le père de famille explique, doit expliquer à son fils, et cela se pratique encore à l'heure actuelle dans le judaïsme, doit expliquer à son fils la signification du rite de la Pâque. Et le père de famille dit ceci, alors ça vous trouverez ça au chapitre 13 du livre de l'Exode, il dit, nous célébrons la Pâque parce que Pharaon nous faisait des difficultés et c'est en souvenir de ma sortie d'Égypte, dit le père de famille, encore en 2018, hein, de ma sortie d'Égypte que je célèbre la Pâque. C'est pour moi, continue le père de famille, et c'est pour ta sortie d'Égypte, dit-il à son fils, que nous célébrons la Pâque. Cela manifeste très clairement que dans la conscience juive, la célébration de la Pâque, dont nous allons faire mémoire à la vigile pascale, mais la célébration de la Pâque, chaque année, répète, pour ainsi dire, l'heure de la libération. À tel point que certains rabbins disent, qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Un juif, c'est celui qui a quitté l'Égypte. C'est celui qui est sorti d'Égypte. Encore aujourd'hui, un juif est celui qui est sorti d'Égypte. Vous voyez, les juifs avaient tout à fait, ont tout à fait conscience du fait que une heure de leur histoire, la célébration de la Pâque, la première célébration de la Pâque a lieu à peu près au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette histoire, si vous plaquez ça sur la frise de l'histoire universelle, la sortie d'Égypte est aux alentours de 1280 avant Jésus-Christ. À peu près. On a des repères assez précis pour le dire, j'avance pas ça comme ça, mais c'est à peu près cette période-là. Donc, les Juifs ont tout à fait conscience qu'une partie de leur histoire a été saisie par la puissance de Dieu pour pouvoir être proposée à être vécue à chaque génération qui passerait dans le temps. Exactement comme notre messe à nous, exactement. Et la Pâque, dans la théologie juive, s'appelle le Zikaron. Zikaron, c'est un mot hébreu, ça vient d'une racine hébraïque qui veut dire Zahar, et Zahar, ça veut dire souviens-toi. Hein, la Pâque, c'est souviens-toi. Et là encore, dans la Pâque, le peuple juif est invité à se souvenir de l'acte de Dieu, et dans cette souvenance de l'acte de Dieu, à vivre des fruits que le Seigneur a posés une fois dans l'histoire en 1280 avant Jésus-Christ, et qu'il propose à chaque génération et à chaque célébration de la Pâque. Voilà, voyez comment est-ce que, selon l'Écriture, nous avons au moins deux exemples d'une heure particulière de l'histoire d'Israël, particulière de l'histoire de Jésus, qui a été comme éternisée par la puissance du Saint-Esprit. Ça va ? Alors, cette heure-là, c'est l'heure que nous sommes invités à vivre. Et tout le Triduum est une invitation à vivre de cette heure de Jésus, de passer de ce monde à son Père. Je voudrais vous faire remarquer une chose, frères et sœurs, c'est que la liturgie a tout à fait conscience de la densité de cette heure et le marque par quelques petits éléments de la vie liturgique de ces trois jours sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Vous avez fait sans doute, enfin peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais hier, à la célébration du Jeudi Saint, nous avons commencé la célébration du Jeudi Saint avec le signe de la croix comme on le fait à chaque messe. D'accord ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, etc. Le Seigneur soit avec vous comme on le fait à chaque messe. Et puis nous avons entendu les cloches au moment du Gloria, Et puis, il y avait un servant d'hôtel qui secouait les cloches ici. C'est pas pour rien qu'il fait ça. Hein. C'est pas pour se délasser qu'il fait ça. Hein. Il y a une raison. D'accord ? À la fin de la messe, est-ce que vous avez eu votre bénédiction habituelle ? Ça alors, le Père Paul vous aurait-il oublié ? Aurait-il refusé de vous bénir, le Père Paul ? Non, bien sûr que non. Mais c'est la liturgie qui, exprès, omet cette bénédiction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liturgie d'hier se poursuit encore aujourd'hui. Nous sommes toujours à la messe. D'accord ? Nous sommes toujours dans le même acte liturgique. Nous sommes toujours à la messe. Vous ferez attention tout à l'heure à la célébration de l'office de la Passion. Ça ne commencera pas par le signe de croix habituel qui commence chaque Eucharistie. Les prêtres s'avanceront et se prosterneront par terre, mais il n'y aura même pas le rite d'accueil. On ne dira pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. On ne dira pas ça. Pourquoi ? Parce que ça a été dit hier soir et que nous continuons le même acte liturgique. Nous sommes dans la même heure de Jésus. Et à la sortie de la célébration de Passion, vous n'aurez pas non plus votre bénédiction. Pour avoir la bénédiction, il faudra revenir samedi. Vous voyez ? C'est le même acte liturgique qui se continue. C'est le même acte liturgique qui se continue. Nous n'entendrons pas les cloches non plus. Elles ont sonné hier au Gloria, elles ont sonné hier quand le servant d'autel agitait sa crécelle. Et aujourd'hui, on ne les entendra pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours dans le même acte liturgique. Les cloches ne sonneront pas pour vous inviter à l'office de la Passion. Ce sera à vous de vérifier sur votre montre que vous êtes bien à l'heure. D'accord ? Demain, ce sera exactement pareil. À la vigile pascale, pas de rituel d'introduction. Pas de rituel d'introduction. Nous sommes toujours dans le même acte liturgique. En revanche, à la fin de la messe, vous aurez votre bénédiction. Du rituel d'introduction du jeudi saint à la bénédiction de la fin de la vigile pascale, cela forme une seule et même action liturgique. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans l'heure du Christ. Et notre temps, frères et sœurs, n'est plus mesuré par nos actions, mais notre temps est mesuré à la pulsation de l'acte de Dieu qui progressivement s'avance vers son accomplissement, vers sa finalité, vers ce qu'il veut nous faire vivre. Et cela, vous voyez, la liturgie l'a tout à fait compris. Nous vivons une seule heure, un peu plus longue, parce qu'elle fait presque 72 heures, mais nous vivons une seule et même heure, ramassée, voyez, vécue avec l'enchaînement de toutes ces actions liturgiques, mais c'est le même acte et c'est la même heure liturgique. Alors ce petit préambule, je vous le dis parce que je voudrais vous inviter à vivre intensément ce que nous allons vivre durant ces jours saints et notamment les célébrations liturgiques. Vivez-les en continuité l'une de l'autre. Tout à l'heure, vous allez vivre l'office de la Passion. Rappelez-vous ce que le Seigneur a fait, ce dont nous avons fait mémoire de l'acte de Dieu hier soir. Jésus qui était dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Voulez-vous savoir ce que ça veut dire pour Jésus que d'aimer jusqu'au bout ? Eh bien, venez tout à l'heure à l'office de la Passion. Voulez-vous connaître les fruits et la fécondité de cet office de la Passion ? Eh bien, venez à la vigile pascale. Ces trois rations sont intimement imbriquées, elles n'en sont qu'une. Voyez ? Une seule heure de Jésus, une seule célébration, un seul jour en trois jours, c'est notre triduum pascal. Voilà comment est-ce que l'Église nous invite à rentrer dans cette heure de Jésus. Ça va ? Bon, eh bien c'est bien. Alors, voyez, aujourd'hui, je voudrais vous parler, je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que cette heure dont je n'arrête pas de parler depuis quelque temps maintenant est très dense, Jésus vit énormément de choses, hein, alors qu'il est, vous savez, si on plaque un petit peu les derniers jours saints, vous savez que techniquement parlant, c'est difficile de reconstituer, hein, les trois jours de la Passion, puisqu'on a deux chronologies différentes dans les évangiles. On a celle des synoptiques. Vous savez ce que c'est que les synoptiques ? Marc, Matthieu et Luc. Voilà. Synoptique, ça vient d'un mot grec, synopsein, qui veut dire voir ensemble, voir en parallèle. Parce que ces trois récits, vous pouvez les mettre en parallèle. C'est pour ça que les théologiens qui ne sont pas avares de mots compliqués ont trouvé un mot compliqué qui leur faisait plaisir, et on appelle ça un des évangiles synoptiques, hein, synopsein. Voilà. Et puis il y a le quatrième. Alors, ces trois évangiles-là proposent une certaine chronologie de la Passion. Et puis il y a un quatrième évangile dont je vous ai parlé déjà hier, qui est structuré autour d'une expérience tout à fait particulière, l'expérience de Jean, et qui est donc le quatrième évangile de Jean. Et ce quatrième évangile propose une chronologie un petit peu différente de la Passion. Alors les exégètes ont beaucoup réfléchi pour savoir laquelle des deux chronologies était finalement la bonne. Vraisemblablement, c'est celle de Jean. Donc selon celle de Jean, Jésus a vécu la dernière scène un jeudi soir, exactement comme ce que nous avons vécu hier. Il a été arrêté au jardin de Gethsémani cette nuit, d'une certaine manière. Et à l'heure qu'il est, 9h à peu près, eh bien, il est sur le chemin du Golgotha et il est sur le point d'être crucifié. Donc vous voyez, le procès de Jésus, en fait, va bon train. Il va rester 3 heures en croix. Enfin, il avance sur le chemin du Golgotha. Il va être crucifié à midi. Il va rester 3 heures en croix et à 15h, comme vous le savez, il expire. Voilà. Donc là, pour recalquer, si vous voulez, les chronologies, Jésus, d'une certaine manière, est en train de sortir du palais de Caïphe. Pour vous donner un petit peu une indication. Mais je voudrais revenir avec vous sur ce qui s'est passé à Gethsémani. C'est un point qui est important. C'est un passage important de l'évangile que l'évangile de Luc ne nous raconte pas beaucoup. Et donc, je vais m'appuyer sur l'évangile de Matthieu, Luc en particulier. Pour revenir avec vous sur ce passage-là, pourquoi faut-il revenir sur ce passage ? Pour deux raisons au moins. La première, c'est que l'Église, vous savez que ce passage de Gethsémani a été très important pour l'histoire de la théologie de l'Église. Les théologiens des premiers siècles se sont disputés autour de ce chapitre de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 27, et notamment quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Saint Maxime le Confesseur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Rien du tout. Saint Maxime le Confesseur est un moine grec qui est mort en 662 et qui a défendu l'idée qu'en Jésus, eh bien, alors là, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Il y a deux volontés. Curieux, hein ? Deux volontés. Vous savez pourquoi il y aurait deux volontés en Jésus ? Parce qu'il est homme et parce qu'il est Dieu. Voilà. Alors, deux volontés qui ne sont pas, évidemment, schizophrènes. Alors, c'est ça que je voudrais essayer de revenir avec vous. Parce que là, il y a quelque chose d'important. Ça a fait l'objet d'une détermination théologique de l'Église. Mais cette détermination théologique de l'Église est aussi importante pour nous, chrétiens, parce que ça nous dit quelque chose de notre propre vie avec le Seigneur. Voilà. Et c'est pour ça que je voudrais revenir avec vous sur ce passage de Gethsémani. Voilà un petit peu le programme de cette méditation de ce matin. Si ça ne vous va pas, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez simplement le choix de partir. L'évangile de Matthieu, chapitre 27, montre Jésus, vous connaissez cette histoire, hein, montre Jésus arrivant au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers. Est-ce que certains ont été à Jérusalem d'entre vous ? Il y en a plusieurs qui ont été à Jérusalem ? Oui. Ceux qui ont été à Jérusalem, est-ce que vous voyez où est le lieu attribué au Cénacle ? Vous voyez, sur la partie est de la ville, sud-est de la ville, hein, on descend le long des murs, des murailles du temple actuel, hein, de l'esplanade du temple, on descend une volée d'escaliers et on arrive effectivement au Jardin des Oliviers où vous avez une énorme basilique franciscaine qui commémore le lieu. C'est un très bel endroit. et vous avez sur ce lieu-là des oliviers dont certains sont plus que millénaires, sans doute que peut-être que l'un d'entre eux aurait été témoin, entre guillemets, de la scène que nous rapporte l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, d'ailleurs aussi l'évangile de Marc. Alors voilà Jésus qui arrive au jardin des Oliviers. Il dit à ses disciples, restez ici pendant que moi je vais prier un peu plus loin. Il en prend trois avec lui, trois disciples. C'est qui ? Pierre, Jacques et Jean. C'est, de toute façon, ça fait partie du trio classique. Ça vous rappelle quelque chose, Pierre, Jacques et Jean ? Oui, la transfiguration. Vous retenez ça parce que c'est important. D'accord ? Voilà, donc Pierre, Jacques et Jean sont amenés avec Jésus. Jésus va prier. On va revenir sur la prière de Jésus. Pierre, Jacques et Jean n'ont pas la force de veiller une heure. C'est d'ailleurs une reproche que j'ai... Vous voyez, l'heure de Jésus, ce que je disais aussi dans l'Amélie hier, l'heure de Jésus, cette heure qui est si importante, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas été capables de veiller une heure avec lui. Vous savez que Jean-Paul II, quand il était archevêque de Cracovie, dans un chemin de croix magnifique, a été bouleversé par cette phrase que Jésus se reproche de Jésus à Pierre. Il lui dit « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas rentrer en tentation. » Vous voyez cette phrase ? Jean-Paul II dit « Depuis ce moment-là, l'Église est à la recherche de cette heure perdue. » C'est très beau cette phrase. « L'Église est à la recherche de cette heure perdue. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Église demande aux chrétiens de compléter d'une certaine manière ce que Pierre n'a pas réussi à vivre. Comment compléter d'une certaine manière ce que Pierre n'a pas réussi à vivre ? En veillant une heure avec le Christ. Comment veiller une heure avec le Christ si cette heure de Jésus fait parfois 72 heures ? Eh bien, soit évidemment par votre prière, et puis par d'autres éléments aussi que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. D'autres moyens de veiller une heure avec le Seigneur lorsque Pierre, Jacques et Jean sont tombés et n'ont pas réussi à veiller avec lui. Voilà. Donc, Jésus revient, dit à Pierre, Jacques et Jean, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure, etc. Et puis, il va retourner prier. Et après, aura lieu l'arrestation. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier au Jeudi Saint, je vous ai parlé des battements du cœur du Seigneur, du fait que le cœur de Jésus avait été comme bouleversé d'amour. Et je vous ai dit, pourquoi est-il bouleversé d'amour ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il a la connaissance de la trahison de Judas, et on pourrait rajouter le reniement de Pierre. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, il sait qu'il va aimer les siens jusqu'au bout, ce que Jean nous dit tout à fait dans l'introduction de l'évangile que nous avons entendu hier. Voilà un obstacle sur la route de Jésus, la trahison de Judas et de Pierre, et voilà une détermination très claire dans son esprit d'aimer les siens jusqu'au bout. D'accord ? Eh bien, donc on voit Jésus sortant du cénacle très déterminé. Il sait ce qu'il va faire. Il veut le faire. Et je vous ai dit hier que Jésus est libre. D'accord ? Il a toute la puissance de Dieu avec lui. Ce qu'il fait, il le fait de manière parfaitement libre. Et il le fait de manière parfaitement libre. Et il le veut. Personne ne le contraint de faire ce qu'il va faire. Il le veut. Vous voyez, il le fait de manière volontaire. Il arrive à Gethsémani et là, tout à coup, les choses semblent chanceler. On est comme témoin d'une hésitation de Jésus. Père, s'il t'est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi, cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous connaissez cette phrase. On a l'impression que Jésus, pardonnez-moi l'expression, a été très fort au moment de la trahison de Pierre, enfin de Judas et de reniement de Pierre, enfin il le sait, au cénacle. Il est très fort, très déterminé, et quand il arrive à Gethsémani, on a l'impression que, oulala, oulala, est-ce que je vais vraiment vivre ça ? Oulala. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on lit l'évangile, on a cette impression-là. Qu'est-ce qui fait hésiter Jésus ? Selon le texte, il y a une chose qui fait hésiter Jésus. Cette chose est symbolisée par un mot. Et le mot, c'est la coupe. Père, s'il t'est possible, que cette coupe passe loin de moi. Non pas seulement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La coupe du Père, c'est ça qui fait, et je rajoute des guillemets, parce que les guillemets sont vraiment importants. Tout à l'heure, on va les lever, les guillemets. Mais je rajoute des guillemets. C'est ça qui fait hésiter Jésus. C'est ça qui nous donne l'impression que Jésus hésite. D'accord ? La coupe. Qu'est-ce que c'est que la coupe ? Quand on regarde dans l'Écriture, la coupe est le symbole de deux choses. La première chose, c'est que la coupe est le symbole de la communion. Partager la coupe avec quelqu'un, c'est entrer en communion avec lui. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait classique dans le monde juif. Vous prenez par exemple, et on en a des traces dans l'Écriture, prenez par exemple le psaume 15 entre parenthèses 16. C'est un psaume de David, où David dit « Le Seigneur est mon partage et ma coupe ». C'est un psaume qu'on entend parfois, pour ceux qui sont habitués à réciter les heures, l'office du bréviaire, c'est un psaume qui revient régulièrement. « Seigneur, mon partage et ma coupe ». Ma part fait mes délices, continue ce psaume. J'ai même le plus bel héritage. Vous voyez, la coupe est le symbole de la communion du psalmiste, en l'occurrence David, avec le Seigneur. Voilà. Vous avez encore d'autres références. Vous pourrez aller voir si ça vous plaît. 2 Samuel 12, chapitre 12, verset 13, qui est encore une attestation du symbole de la coupe ou du bol. En hébreu, c'est le même mot, kos, la coupe ou le bol, symbole de la communion. Boire dans la coupe de quelqu'un, c'est rentrer en communion avec lui. Plus proche de nous, saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, la première, chapitre 10, parle de la coupe de la communion avec le Christ. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ce verset. Nous buvons à la coupe. Nous avons part à la même coupe. Aussi sommes-nous en communion les uns avec les autres et avec le Seigneur Jésus. Et saint Paul fait évidemment référence à l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, dans les paroles de l'institution de l'Eucharistie, il est aussi question de la coupe. Prenez et buvez, ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance. D'accord ? L'alliance, c'est quoi ? L'alliance, c'est la communion. La coupe de l'Eucharistie, c'est la coupe de la communion. La coupe de la nouvelle alliance. Donc vous voyez, selon l'Écriture, le symbole de la coupe est un symbole de communion. Et de communion très fort. D'accord ? Et il est clair que Jésus est toujours en communion avec son Père. Toujours. Toujours en communion avec son Père. Il le dit plusieurs fois dans l'Évangile. Par exemple, cette phrase que vous connaissez très bien, « Le Père et moi, nous sommes un. » Le Père et moi, nous sommes un. Et vous savez pourquoi Jésus dit ça ? À quel mystère de notre foi ça fait référence ? Au mystère de la Sainte Trinité. Un seul nom en trois personnes. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et s'ils sont un seul Dieu, c'est évidemment que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en communion étroite. Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne cesse jamais de vivre cette communion avec son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Il le dit encore ailleurs, à d'autres endroits, si je retrouve quelques petites références. Voilà. Ailleurs, il le dit au chapitre 4 de l'évangile de Jean, c'est pour vous donner un autre exemple. Il dit, vous savez, c'est la Samaritaine. Jésus est fatigué, il est à côté d'un puits, il parle avec la Samaritaine pendant que les disciples sont partis chercher au village de quoi manger. Voilà. Et puis quand les disciples reviennent, ils sont étonnés de voir Jésus parler avec la Samaritaine, et puis ils disent à Jésus, mais tiens, prends un peu de la nourriture qu'on a été chercher. Et Jésus répond une phrase bizarre, mais qui prend tout son sens maintenant. Il répond cette phrase, il dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je suis venu faire la volonté de mon Père. » Faire la volonté de Dieu, c'est la nourriture de Jésus. Et faire la cette nourriture, c'est une nourriture qui le construit. C'est quand on prend quelque chose, ça nous construit. Vous voyez, Jésus n'a qu'une seule chose à faire, il a une seule raison de vivre, c'est de faire la volonté du Père. Ça montre cette alliance indissoluble qu'il y a entre le Père et le Fils. Et cette alliance indissoluble est représentée par le premier sens du mot « coupe ». Ça va ? Mais il y a un deuxième sens au mot « coupe » dans l'Écriture. Un deuxième sens qui nous chatouille un petit peu, parce qu'on n'a pas tellement envie d'en entendre parler de ce deuxième sens. Alors je suis désolé, on va le faire. Le deuxième sens du mot « coupe », alors attention, je vais être un peu cash, mais c'est aussi cela la révélation biblique. Et si nous écoutons la parole de Dieu, comme je l'ai dit hier, avec nos deux oreilles, d'accord ? Parce que nous écoutons deux fois plus que nous parlons, eh bien, nous entendrons un autre sens du mot « coupe », à savoir le coupe, la coupe de la colère de Dieu. Ouï, ouï, ouï. La coupe de la colère de Dieu. Le calice de sa fureur. Et oui, ça existe dans l'Écriture. Et c'est tout à fait présent. Isaïe, chapitre 51, verset 17, parle du calice de la fureur de Dieu. Isaïe 29, verset 10, parle de la coupe de la colère de Dieu à l'égard d'Israël. Jérémie 25, versets 15 à 29, parle de la coupe de la colère de Dieu contre Israël et contre les nations. Ézéchiel, chapitre 23, verset 33, parle de la coupe de la désolation. Il faut avouer que quand on lit ces passages, il y en a des tas d'autres. Ça, je vous ai donné quelques passages un peu plus marquants. Si vous avez des Bibles, vous pourrez les voir. Mais ces passages-là nous font un peu mal à l'entournure. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas du tout habitué à la colère de Dieu. Saint Paul a consacré les trois premiers chapitres de l'Épître aux Romains rien qu'à une seule chose, c'est de parler de la colère de Dieu. Et oui, ce n'est pas des chapitres qu'on a l'habitude souvent de lire et parfois on saute facilement dessus. Qu'est-ce que c'est que cette colère de Dieu ? Pourquoi Dieu se met en colère ? Si vous connaissez la réponse, nous la connaissons la réponse. À cause du péché. À cause du péché. Vous voyez, Dieu est en colère à cause du péché de l'homme. Dieu déteste le péché. Il a horreur du péché. Il a horreur du péché parce que le péché est une infraction à la double loi de l'amour. Vous la connaissez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Toute la loi que le Seigneur donne dans l'Écriture, 613 commandements, c'est quand même pas mal. Toute la loi que Dieu donne dans l'Écriture se résume à ces deux commandements, Deutéronome 6 et Lévitique 19. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Le péché est une infraction à la loi de Dieu, et c'est une infraction à ce qui fait plaisir à Dieu. Et forcément, puisque c'est une infraction à ce qui plaît à Dieu, eh bien Dieu se met en colère. Faire le péché, commettre le péché, c'est commettre quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et donc, c'est nous vouer, c'est vivre sous la colère de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu se met en colère ? Parce que l'homme est pécheur, ça c'est une chose, mais il y a une deuxième raison, qui fait toujours partie de la même raison d'ailleurs, c'est que Dieu prend au sérieux notre liberté humaine. Dieu prend au sérieux notre liberté humaine et notamment notre responsabilité. Il nous a créés hommes et femmes libres. Libre, ça veut dire responsable. Et le Seigneur prend au sérieux cette responsabilité. Il ne veut pas que nous nous défaussions de cette responsabilité. Et c'est parce que et cela, ça rentre aussi dans la colère de Dieu. Voilà. Alors cette coupe, vous voyez, cette coupe que Jésus voit d'une certaine manière à Gethsémani, Eh bien, quand on regarde cela, selon l'Écriture, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Coupe de communion et coupe de la colère. Comment comprendre cette affaire ? Comment comprendre cette affaire ? Eh bien, dans ces deux symboles, et dans le geste que Jésus va accomplir, et qui nous est expliqué dans Gethsémani, s'opère toute notre rédemption. Jésus, qui est le Fils de Dieu, va prendre sur lui toute la colère de Dieu. Il va boire cette coupe à notre place. En théologie, ça s'appelle la substitution. Et saint Paul a été là encore bouleversé par ce mystère et il le ramasse en quelques mots dans une de ses épîtres. Il dit « Le Christ, Dieu l'a fait péché pour nous ». Cette phrase est extrêmement violente. Dieu l'a fait péché pour nous. Le Fils de Dieu a accepté de prendre sur lui tout le poids de la colère de Dieu pour que nous n'ayons pas à le porter. Il a payé notre facture. Et c'est ça qu'il va réaliser en ce jour du Vendredi Saint. Vous connaissez cette histoire, au tout début de l'évangile de Jean, Jean-Baptiste est en train de baptiser dans le Jourdain. Et puis il voit Jésus qui vient et qui passe, et il a une drôle de phrase à propos de Jésus. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui... » Deux choses. « Qui porte le péché du monde. » Parce que le terme grec, hein, en l'occurrence, c'est « lambano » en grec. « Lambanein », ça veut dire deux choses. Ça veut dire « porter » et ça veut dire « enlever ». Vous voyez ?« Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde » et qui l'enlève. Les deux sens sont importants. Il porte parce qu'il supporte le poids de notre faute. Et il l'enlève parce qu'il boit la coupe de la colère de Dieu, parce qu'il a décidé de se faire responsable à notre place. Il n'a commis aucun péché. D'accord ? Il n'a commis aucun péché. Mais voilà jusqu'où va l'amour de Dieu. Hier, nous l'entendions, Jésus qui était dans le monde aima les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. D'accord ? Eh bien, voilà où va l'extrême. Lui qui est innocent va payer pour les coupables. Et cette vérité, c'est de là que surgit sa miséricorde. Hein, la miséricorde du Christ, elle n'a de sens que parce que Jésus a décidé de prendre sur lui tout le poids de la faute. On en voit, il y a un petit passage que j'aime beaucoup, hein, qu'on va entendre à la fin du Triduum Pascal, c'est au moment où Jésus est ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, il apparaît à ses disciples et il leur dit une phrase, il leur dit « La paix soit avec vous ». Mettez-vous dans la peau des disciples. Moi, j'aime bien me mettre dans la peau des personnages, toujours très intéressant. Mettez-vous dans la peau des disciples. Peut-être, à part Jean, tout le monde a pris la poudre d'escampette. D'accord ? Tout le monde a fui, sauf peut-être Jean. Et encore, on n'est pas sûr selon les évangiles. Mais disons que Jean soit resté au pied de la croix, comme il le dit dans son propre évangile. Tous les autres ont fui. Pierre a renié et les autres sont partis, se sont dégonflés. Hein, alors qu'il disait à Gethsémani, « Seigneur, t'inquiète pas, si jamais on vient t'arrêter, on va leur faire la fête, quoi. » Eh bien non, au moment où on vient arrêter Jésus, tout le monde se casse. Sympa, hein ? Vous avez envie d'avoir des amis comme ça ? Non, mais c'est une vraie question, hein ? Quand on a des amis, on a envie qu'ils soient avec nous quand ça va bien, mais aussi quand ça va pas. D'accord ? C'est là où on a besoin de ses amis. Ben, Jésus, il avait 12 copains, et quand ça va pas, tout le monde se casse, sauf peut-être un. Sympa, quand même, hein ? Bande de copains, sympa. Voilà. Eh bien, c'est le seul gars sur la terre, Jésus, qu'il ne fallait pas trahir. Parce que vous pouvez trahir un ami, et une fois que cet ami est mort, eh ben c'est bon, maintenant il est dans son cercueil, il ne va plus vous embêter. Imaginez que cet ami revienne d'entre les morts. Imaginez que son fantôme revienne hanter vos nuits en disant « Tu m'as trahi, eh bien maintenant tu vas voir !» Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais hanter toutes tes nuits. Il y a des tas de films d'horreur qui ont été faits sur cette question. D'accord ? Lui, c'est même pas un fantôme. Il revient avec la puissance de Dieu, un corps de ressuscité qui passe à travers les murs. Eh bien, les disciples ont dû avoir un peu les boules, pardonnez-moi. Hein. D'accord ? Jésus aurait très bien pu dire « Vous m'avez trahi ?» Eh bien, vous allez voir maintenant, tous les jours de votre vie, je vais vous hanter, je vais vous pourrir la vie. Que fait-il ? Il fait ça ? Non. Il dit « La paix soit avec vous ». C'est la parole de la miséricorde. Et c'est pour ça que dans la formule de l'absolution, quand vous allez confesser, le prêtre dit « Je te pardonne tous tes péchés ». Pardon, il dit par le ministère de l'Église qu'il vous donne le pardon et la paix. Cette paix, c'est la paix de Pâques. C'est la paix du ressuscité en faveur de ses disciples qui l'ont tous trahi. Mais Jésus pardonne. Et il peut pardonner parce qu'il a pris sur lui le poids de leurs fautes. Il s'est offert à son Père. J'aime pas ces mots, mais il a pris sur lui toute la coupe de la fureur de Dieu pour que eux n'aient pas à le vivre. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est ça sa miséricorde. C'est le premier grand enseignement de Gethsémani. Vous voyez, parce que dans ce premier enseignement de Gethsémani, on a comme la clé qui permet de rentrer dans le tridium pascal. Hier, on a parlé de l'amour. J'ai parlé de l'amour hier. Il les a aimés jusqu'à l'extrême. Et je vous ai dit, après tout, jusqu'à l'extrême, ça veut dire jusqu'à mourir sur la croix. Mais on ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Eh bien, ce mystère de l'amour, maintenant, nous sommes en train de le voir, nous sommes en train de le creuser. Et en le creusant, nous nous rendons compte aussi du poids du péché, de la gravité du péché. Cela, nous allons le retrouver tout à l'heure quand nous allons méditer sur l'évangile de la Passion. Je reviendrai là-dessus. D'accord ? Mais nous voyons dès maintenant que Jésus prend sur lui tout le poids de la colère de Dieu qui a été pourtant révélée dans l'Écriture. Il le fait à notre place. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement qui est peut-être plus concret et plus pratique pour nous. Je vous dis, Jésus a toujours voulu être en communion avec son Père. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué que Jésus, en fait, avait pris sur lui, hein, il avait voulu payer la facture à notre place. C'est le signe de la communion qu'il a voulu indissoluble avec nous, avec moi qui suis un pécheur. D'accord ? Il a payé ma facture, d'une certaine manière. Il veut être en communion avec moi. Mais il reste en communion avec son Père. D'accord ? Dans la Trinité, Dieu lui-même ne veut pas que le pécheur meure. Il ne veut pas que le pécheur meure. Ça, on en a des phrases, on en a des citations à l'appel dans l'Ancien Testament, et vous connaissez très bien cette citation d'Ézéchiel. « Est-ce la mort du méchant que je veux ?» Dieu pose cette question. « Est-ce la mort du méchant que je veux ?» Vous connaissez la réponse. La réponse est non. D'accord ? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Voilà. Et c'est pour ça que Jésus va justement prendre sur lui cette mort pour que le pécheur pas à la subir. Mais ça veut dire que quand il fait ça, Jésus rentre dans les plans de Dieu. Hein, il fait ce que Dieu veut. Il va vivre cette communion avec Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur. Alors Dieu va rentrer aussi dans cette communion avec Dieu. Pardon, le Fils va vivre cette communion avec Dieu. Il ne cesse d'accomplir la loi du Seigneur, la Torah, l'accomplissement des Écritures. Et il ne cesse de marcher au diapason de la volonté du Seigneur qui ne veut pas que le pécheur meure. Ça va ? Voyez, et donc il reste en communion avec son Père. Il reste en communion avec son Père parce qu'il l'aime. C'est normal. Hein ? Il reste en communion avec son Père parce qu'il l'aime. Et parce qu'il l'aime, il veut faire sa volonté. Le Père ne veut pas la mort du pécheur. Très bien, dit Jésus, je vais sauver le pécheur. Et je vais sauver le pécheur en prenant sur moi le poids de la colère. Voyez, donc, le Seigneur, à Gethsémani, non seulement veut rester en communion avec nous, mais veut être en communion avec son Père. Il continue à vivre la loi de Dieu. Mais voilà que la loi de Dieu, et voilà que ce que le Seigneur l'invite à faire, est particulièrement désagréable. Et ça, frères et sœurs, il faut que nous réfléchissions à cette affaire-là. Vous savez, faire le bien, faire la loi de Dieu, n'a pas toujours bon goût. Parfois, ça nous dégoûte. Vous êtes d'accord ? Parfois, ça nous dégoûte. Nous n'avons pas envie de faire la loi de Dieu. Ça nous révulse intérieurement. On se révolte contre cela. Oui. De temps à autre, à Paris, je vais servir, c'est pour prendre un exemple, hein, je vais servir de petit déjeuner au SDF. Eh bien, parfois, ça sent pas bon. Oui. Et il faut que je me force pour le faire. Et si j'écoutais simplement ma propre nature humaine, je ne le ferais pas. Oui. C'est des choses que tout le monde connaît. Vous êtes d'accord ? Nous avons en nous-mêmes, vous voyez, nous voulons faire le bien. Saint Paul a été marqué hein, par cette affaire-là, et vous trouvez ça au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Nous désirons faire le bien, mais au fond, quand on y réfléchit, il y a des moments où faire le bien, ça n'a pas bon goût. D'accord ? C'est une expérience que nous connaissons tous. Eh bien, Jésus vit cette expérience-là à Gethsémani. Il vit cette expérience-là à Gethsémani. Il veut faire le bien. Il veut obéir à son Père qui ne veut pas la mort du pécheur. Il veut sauver les siens qui sont dans le monde et les sauver jusqu'au bout. Mais là que le moyen qui apparaît pour faire cela n'a pas bon goût. Et il y a en Jésus comme un débat. Il y a en Jésus comme une scission, j'ai envie de dire comme une déchirure entre deux puissances qui en lui s'affrontent. Et ça, ça a été tout l'objet de saint Maxime, le confesseur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a réfléchi là-dessus, comme un débat entre deux volontés. Une volonté qui, parce qu'il est homme, dit « Mais enfin, je n'ai pas envie de mourir, Jésus n'est pas maso, il n'a pas du tout envie de vivre ce qu'il va vivre, ça se comprend. » D'accord ? Et en même temps, une autre volonté qui en lui, en être en débat, en disant « Mais si tu veux la preuve du plus grand amour pour ton père et pour tes frères, c'est ce chemin-là qu'il faut choisir. » Il y a un discernement de Jésus. Et comme Jésus est libre et qu'il est homme, eh bien, il discerne. Il sait qu'il veut faire la volonté de Dieu. Et jamais il n'hésite dans cette volonté. Il veut la faire. Mais voilà que devant les moyens qu'il faut prendre, manifestement, pour que cette volonté s'accomplisse, eh bien, cette volonté n'a pas bon goût. Ça le dégoûte, ça le révulse. Et c'est normal. C'est une expérience humaine. Vous êtes d'accord avec moi ? Et vous voyez que Gethsémani, en fait, est un passage de l'Écriture dans lequel tout le monde, chacun d'entre nous qui essayons de faire la volonté de Dieu, nous pouvons nous y retrouver. Parce que parfois, la volonté de Dieu, eh bien, elle est dure à porter. Elle n'est pas facile, et si on pouvait fuir comme les 12 autres, on le ferait volontiers. Vous êtes d'accord ? Et moi, c'est quelque chose dont je fais l'expérience aussi de manière régulière. Oui. Je pense, vous voyez, à tous ceux qui ont à se battre contre des formes de péché qui reviennent. Je pense à tous ceux qui ont du mal à poser des pardons. Combien sommes-nous qui avons du mal à poser des pardons et nous disons « Seigneur, je pardonne ». Et puis à peine la personne revient telle que « Hop là, dans mon cœur, il y a une colère qui rentre. Ça, jamais je lui pardonnerai ». Et il faut reprendre à chaque fois le combat. Il faut reprendre à chaque fois les choses. Vous voyez ? Sans jamais se décourager. Parce que nous savons quelle est la volonté de Dieu. Nous savons quel est le bien à faire. Mais nous savons aussi que c'est difficile. Et nous savons que faire ce bien n'a pas bon goût. Parfois, ça n'a pas bon goût. À d'autres moments, oui, ça a bon goût. Et le Seigneur nous console. Mais à d'autres moments, il faut, comme le dit Jésus, sa propre croix, et il faut le suivre. Pardonnez-moi, que cela nous plaise ou non. Eh bien, c'est ça que Jésus vit à Gethsémani. C'est ça. Et en vivant ça, puisque cette heure de Jésus est comme éternisée, comme je le disais tout à l'heure, par la puissance de l'Esprit, et qu'elle nous est donnée particulièrement pendant ce tridium à vivre, puisque Jésus a vécu cela, il rejoint chacun d'entre nous dans nos propres combats lorsque nous avons à poser une option en faveur de l'amour, de la justice, du bien, et une option qui nous coûte et qui, quelque part, de temps à autre, nous dégoûte même. Vous voyez ? Il y a un très beau titre d'un livre écrit par Simone Pacaud qui s'appelle « L'évangélisation des profondeurs ». Vous connaissez ce titre-là ? J'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup ce titre, parce que l'évangélisation des profondeurs, ça veut dire que, voyez, l'homme est comme un oignon, d'une certaine manière, il est comme un oignon, voyez, et qu'il faut évangéliser chacune de nos couches. Alors quand on rencontre le Seigneur, quand on a la joie de faire une expérience de Dieu, ça commence souvent par la couche de l'affectivité spirituelle, d'ailleurs et notre affectivité humaine, on est touché, parfois même on en pleure, tellement c'est beau, tellement c'est grand, on est touché par la rencontre du Christ. Vous voyez, ça nous touche à l'affectivité qui est quelque chose d'extrêmement profond. L'affectivité, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et puis, au fur et à mesure que notre vie chrétienne avance, l'expérience que nous avons vécue, en fait, elle se répand dans les différentes couches de notre être. Ça éclaire notre intelligence, ça redresse d'une certaine manière notre volonté. Parfois, ça purifie notre mémoire. Vous voyez, ça se répand comme dans un oignon, d'une certaine manière, ça se répand dans les différentes couches. Mais la couche la plus profonde, alors plus profonde avec des guillemets, parce que ça dépend du point de vue que l'on adopte, mais la couche la plus profonde, c'est-à-dire l'affectivité, demeure toujours à être évangélisée. Vous voyez ? L'évangélisation des profondeurs, c'est l'évangélisation de notre affect, qui parfois se révulse et se révolte contre le bien à faire. Ça dure toute la vie, cette affaire. Vous voyez ? Ça dure toute la vie. Et la vie chrétienne, hein, c'est une vie dans laquelle nous avons sans cesse à nous battre contre cela. Moi, j'aime bien dire aux séminaristes avec lesquels je peux parler de ces affaires, j'aime bien dire, il faut être envers nous-mêmes plein d'exigences et plein de miséricorde. Plein d'exigences, c'est Gethsémani qui nous l'enseigne. Plein d'exigences, d'accord ? Parce que nous avons à prendre notre croix et à vivre la même étape que Jésus. Et Jésus nous aide. S'il a voulu vivre cela à Gethsémani, c'est pour précisément nous aider à vivre ce propre combat. Mais il faut être aussi plein de miséricorde parce que chaque fois ce combat est à reprendre. Et que si jamais on n'est pas plein de miséricorde envers soi-même, très vite on se décourage et on désespère. Vous voyez ? Donc, et je termine là-dessus, un petit verset que j'aime beaucoup de l'Écriture et qui pourrait reprendre un petit peu ce deuxième aspect de Gethsémani, qui est un aspect beaucoup plus concret, comme vous le voyez. Je voudrais reprendre avec vous ce verset que l'on trouve dans le livre d'Agé, « Courage, Zorobabel, au travail ». Courage, mes amis, puisque Jésus a vécu cela pour nous, d'accord ? Ne faiblissons pas dans notre combat, mais avec lui, à Gethsémani, eh bien, avançons pour évangéliser ces profondeurs. Comment pouvons-nous veiller une heure avec le Seigneur ? Évidemment, en priant et en demandant au Saint-Esprit notamment d'unifier notre propre être spirituel. Mais une deuxième manière de veiller une heure avec le Christ, c'est de lui offrir tous ses combats contre notre affectivité qui, de temps à autre, et parfois bien souvent, se révolte et fait comme les 11 autres, prend la poudre d'escampette quand il faudrait pouvoir combattre. Voilà, que le Seigneur nous conduise, qu'il nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne sa paix. Amen.
Voilà, la prochaine conférence est donc à 11h15, donc dans trois quarts d'heure. D'ici là, je vous conseille de... Alors, le père Ulrich pourra confesser, si vous souhaitez. Et puis, on peut rester en silence. C'est bien aussi de se dégourdir les jambes un petit peu, marcher un petit peu. Puis on se trouve un coin, on est bien, on médite. Et on reprend notre retraite dans trois quarts d'heure.